بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères et sœurs, toutes les louanges reviennent à Allah Azzawajal qui nous donne la possibilité donc, d'aborder cette dernière décade du mois de Ramadan. Et nous allons voir aujourd'hui les actions que le prophète alayhi salat wa salam avait l'habitude d'accomplir durant cette dernière décade. On dissocie dernière décade de Laylatul Qadr, parce que ces deux sujets peuvent être traités séparément, afin qu'on ne se focalise pas sur la nuit du destin. Comme on avait cité hier dans le premier programme de la préparation pour la dernière décade, on a dit qu'il ne faut pas se fixer uniquement comme objectif la nuit du destin. Parce que la personne qui va dans cette démarche va se dire que finalement, je n'ai qu'à me réveiller pour les nuits impaires et ne pas donner d'importance particulière aux nuits paires, ce qui serait une grossière erreur, car le prophète alayhi salat wa salam, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, donner de l'importance à chaque nuit de la dernière décade, sans distinction des nuits paires et impaires, tout en sachant que la nuit du destin intervient dans les nuits impaires. Hier, bi'idhnillah, on a été peut-être un petit peu long dans le mordo, dans le sujet qui a été abordé, mais on voulait ce qu'on appelle « kashf al-shubuhat », on va dire éradiquer un petit peu les doutes ou les incompréhensions concernant le destin de façon générale, mais pour cette question du destin, on aura l'occasion, Inch'Allah, de revenir et d'aborder de nouveau cette thématique, parce qu'elle est complexe, mais également écarter le problème qui est tous les ans posé. Est-ce qu'il y a une nuit du destin par pays, par zone, par rapport à la vision de la Lune? Et je pense qu'on a essayé de donner le maximum d'exemples pour qu'on réalise qu'on ne peut pas comparer les révélations, tout ce qui vient d'Allah, avec ce que nous comprenons et ce que notre Seigneur attend de nous. Ce sont des efforts. Et les efforts ont commencé hier soir pour la zone nord du globe terrestre, pour l'Europe et le Moyen-Orient, et pour les pays qui ont commencé le Ramadan un samedi, comme la Réunion et l'océan Indien de façon générale. C'est ce soir que, Inch'Allah, on va se retrousser les manches et on se prépare pour vivre vraiment une magnifique saison, une magnifique décade. À l'instant T, là, aujourd'hui, c'est donc jeudi, alors qu'on se prépare pour cette première décade, pour cette dernière décade, pour cette première nuit de la dernière décade, il nous faut deux choses. Nous devons avoir avec nous, premièrement, husnun niyya, une intention pure et sincère, ou al-azm, et une intention en même temps ferme de vouloir bien faire. Premièrement, donc je répète, ce qui doit distinguer le croyant le 20e Ramadan matin ou après-midi, c'est-à-dire avant de démarrer la première nuit de la dernière décade qui commencera à l'heure de Maghrib, il faut déjà que dans notre cœur, nous soyons clairs dans nos objectifs, que mon but, c'est vraiment cette année de faire encore mieux, encore plus d'efforts que les autres années. Et je suis convaincu de l'importance de cette décade et je veux faire le maximum d'efforts pour, entre guillemets, prouver, montrer à mon Seigneur la bonté et les bonnes intentions dont je suis animé et à quel point j'ai envie d'obtenir son agrément cette année, encore plus que les autres années. Comment est-ce que cette année je veux réellement réformer ma vie? Je veux obtenir son pardon et prendre un nouveau départ. Tout ça, ça doit animer mon cœur. Il ne faut pas uniquement se dire que, voilà, comme on dit chez nous, Mamaï, à soir à grande nuit, ou là, il commence des décades. Allons faire namaz. Oui, mais allons faire namaz, allons faire de bonnes œuvres. Oui, mais pourquoi? Et pourquoi est-ce que tu vas faire ces bonnes œuvres? On a bien identifié qu'est-ce qu'Allah nous accorde, mais je dois bien fixer et ancrer mes objectifs. Parce que intention, niya, elle est sincère, sans le moindre doute, elle doit être accompagnée d'objectifs. Mon objectif, c'est-à-dire ce que je recherche à travers les efforts que je vais produire à partir de ce soir. C'est donc de me racheter auprès de mon Seigneur trouver son pardon, lui demander le taouba, lui demander de guider mes pas, d'accepter mon mois béni de Ramadan et de m'accepter pour les bonnes œuvres jusqu'à la fin de ce mois béni et de m'accorder istiqama pour la période d'après le mois béni afin que ma vie soit réellement orientée vers lui. Je veux qu'Allah Rabbul Izzah m'aime. Je veux qu'Allah m'accepte. Je veux qu'Allah me regarde avec fierté. Je veux qu'Allah me considère ou m'inclue dans le groupe de « وَيُبَاهِ بِكُمْ مَلَائِكَتَ » Qu'Allah soit fier de moi auprès de ses anges et me cite en exemple auprès d'eux, de ses malaïkas, comme Allah le fait pour les serviteurs qu'il aime. Je veux réellement que cette année 2020 soit une année de transition, un nouveau départ spirituel dans ma vie, mais basé sur la sincérité, sur al-azmu, sur une fermeté de le niya. Je le répète et je le dis tout le temps, ce n'est pas uniquement suivre un mouvement parce que mon père, mon grand-père ou mon moulissa, mon fundi ou peu importe, ils me l'ont inculqué, l'important de cette période. Ce n'est pas uniquement ça, on le fait, alhamdulillah, Allah jazim khair, ils nous ont donné de bonnes bases de le ta'lim, le tarbiya, mais vraiment que mon cœur soit animé par les bonnes intentions, je le répète, et que mon cœur soit convaincu. Et que j'ai réellement envie d'améliorer ma relation avec mon Seigneur. Et je sais que ça va se passer à partir de ce soir. Voilà. Ça, c'est la première chose que je dois mettre de mon côté pour que j'entame cette décade avec les meilleures intentions. Et pourquoi est-ce qu'on s'attarde sur ce point? Parce que tout le monde a compris. Les actions ne valent que par leurs intentions. Et deuxième hadith qui me conforte dans mon choix, et c'est la deuxième étape. La deuxième chose qui doit être présent en moi à cet instant, c'est une préparation, un planning, une organisation. C'est pas que ce soir je me couche et puis, comme on dit, quand mon yeux y ouvre ma wa. Non, c'est pas comme ça. Ça se prépare. Et l'idéal, ce serait même de faire un tableau, un planning. Vous avez un fichier Excel, vous faites à la main, vous faites sur votre portable, peu importe, mais il faut s'organiser. Le mu'min, c'est un croyant, c'est une personne qui est organisée, qui sait ce qu'il fait et qui gère son temps pour Allah. Ainsi, ce qui serait souhaitable, c'est de faire un tableau pour indiquer à quelle heure, ce sont là des conseils, hein, à quelle heure donc je vais prendre mon repas de ce soir. D'accord ? Il y a des personnes qui mangent, qui rompent le jeûne avec, mashallah, la sunna, rutab, tamr et éventuellement de l'eau. Et ensuite, ils font le maghrib et puis ils remangent un petit peu. Il y en a qui ont besoin d'un réel dîner, hein, comme chez nous, à La Réunion, c'est le riz curry. Peu importe, mais faire en sorte qu'on ne se couche pas tard ce soir. Alors, déjà, je dis on ne se couche pas tard, je me trompe un peu dans les termes. C'est vrai qu'on va voir que le prophète passait l'intégralité de la nuit en ibadah. Bon, maintenant, il y en a qui ont la possibilité, mashallah, la capacité de le faire. Donc, du coup, faites une petite parenthèse sur ce que je viens de dire. Oubliez ça, ne pas se coucher trop tard. Mais en tout cas, réglez déjà l'heure du dîner. Ça, c'est le premier onglet, on va dire, dans mon emploi du temps. Ensuite, je dois également programmer à quelle heure je commence les prières. Je dois également préciser combien de rakat, de tahajjud, de qiyamul layl je vais faire, tout en sachant que j'ai ma salat de tarawih à accomplir avant. D'accord ? Et je ne pense pas qu'on ait le potentiel de faire tarawih et immédiatement se mettre debout et enchaîner le qiyamul layl. C'est surhumain. Donc il est normal qu'il y ait un break. Et c'est de ça que je voulais en parler. Je voulais parler un break. Ça peut être le dîner, ça peut être un petit temps de repos, et ainsi de suite, rendre visite aux parents, ainsi de suite. Mais il faut qu'on ait une heure fixe pour démarrer les ibadas. Alors, si quelqu'un a besoin de se reposer un peu, ça fait partie de la nature humaine. Mais en tout cas, préciser à quelle heure je commence les ibadas, au moins que ce soit clair dans ma tête, et pour une autre raison qu'on va citer. Ensuite, planifier, oui, le nombre d'unités de rakat de tahajjud que je vais faire. D'accord ? Si on peut faire 12 rakat, c'est khair wa ni'ma. Et ce serait plus proche de la sunnah. Et pourquoi pas garder notre 8 heures pour clôturer notre tahajjud qiyamoulayl comme le prophète alayhi salat wa salam avait l'habitude de le faire. Ça, bien sûr, si je ne prie pas la salat de Tarawih en jamaat. Si je fais seul, je peux garder mon witr pour clôturer le qiyamul layl, le tahajjud. Ça, c'est pour les gens qui sont sûrs d'être réveillés pour faire la prière de la nuit et qui sont sûrs de ne pas rater le witr. Et maintenant, dans l'organisation et la répartition du temps entre les différents actes d'adoration, c'est une autre thématique qu'on va aborder, inshallah, plus tard, entre prières, alterner les prières et les lectures de Coran, les dhikrullah, les do'as, pour ne pas non plus qu'on se lasse et qu'on soit un peu fatigué. Donc ça, on abordera une autre fois en termes de nasiha, en termes de conseils. Donc, pourquoi est-ce qu'on insiste sur le planning et avec, en plus de l'intention, l'organisation, ça rejoint un hadith qudsi de lequel notre Seigneur nous rappelle que celui qui se rapproche d'Allah d'un pas, Allah se rapproche de lui de deux pas. Celui qui se rapproche d'un empan, Allah se rapproche de lui d'une coudée, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais faire le premier pas et les premiers efforts, Allah va m'accepter. Et lorsque je mets par écrit ou j'ai déjà planifié de façon très claire comment j'organise mes nuits, c'est d'une certaine façon montrer, entre guillemets, Allah, c'est ce qu'il y a dans nos cœurs, à Allah notre bonne intention. Ça va renforcer notre bonne intention qui ne reste pas juste au niveau du cœur, mais ça se concrétise par un planning et une organisation. Et vous savez qu'il suffit qu'un croyant fasse l'intention d'accomplir une bonne action. Ça rejoint ce troisième hadith qui conforte notre préparation psychologique là, d'accord? Troisième hadith donc, dans un texte prophétique, il est stipulé que lorsque le croyant a l'intention d'accomplir une bonne action, Allah demande aux anges d'écrire et d'inscrire les bonnes actions immédiatement. C'est-à-dire que là, imaginez qu'il soit 13h ou 14h, j'ai déjà fait mon planning de tahajjud pour ce soir. Et c'est très clair dans ma tête, à partir du moment où mon niya est formulé et que j'ai déjà tout planifié, nous devons avoir la conviction qu'Allah a déjà demandé à un ange d'inscrire dans mon livret d'action cette bonne action. Et cela découle de la générosité d'Allah qui est Karim, et de sa richesse qui est Allah, qui est Al-Ghani, qui est capable de donner, mais beaucoup plus qu'on ne l'imagine, et sans que jamais son trésor ne diminue. Et c'est la sunnah d'Allah, c'est de cette façon qu'Allah agit avec nous. Donc, on a tout intérêt à fixer notre niya et notre planning afin d'obtenir dès maintenant les récompenses. Et le hadith stipule, et si le croyant l'accomplit, Allah Rabbul Izzah demande aux anges d'inscrire 10 fois, au minimum, 10 fois l'équivalent de récompense qu'on aurait dû avoir. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Chaque bonne action est rétribuée x10. Et ayat du Coran, man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Celui qui accomplit une bonne action, sens du verset, en aura 10 fois la rétribution. Donc déjà, subhanallah, je n'ai pas commencé les bonnes œuvres de la dernière décade et je suis déjà gagnant. C'est parce qu'on s'oriente vers un Seigneur qui est généreux, clément, miséricordieux, qui ne veut que du bien pour nous, qui, entre guillemets, n'attend que la manifestation de bonne volonté de son serviteur pour l'accepter, pour l'accueillir, pour l'élever et pour accorder ce qu'il demande et mieux, et meilleur, et plus même que ce qu'il nous demande. Ayons conviction, ikhwani, akhawat, fillah, soyaqin, que ce soir, nous allons nous présenter devant Akramul Akramin, devant le clément, le miséricordieux, le généreux, celui qui a un paradis qui est déjà prêt et qui attend qu'on tende les mains pour nous l'accorder. Donc nous devons aborder cette nuit de la dernière décade avec husnudhanni billah, avec une pensée positive, magnifique, avec beaucoup arraja, beaucoup d'espoir en notre Seigneur et conviction de Ihtisab al-Hajj, de conviction qu'il va nous rétribuer. Et à chaque fois qu'on va faire des efforts, ça on développera plus tard, notre cœur doit être animé également de la muraqabatullah, la pensée permanente d'Allah, la conviction qu'Allah nous voit, qu'Allah nous observe, et que même si ce soir il y aura, mashallah, 3,5 milliards de croyants ou 4 milliards qui vont être debout en face du Qibla, sur leur sajjada, sur le Musalla, à implorer leur Seigneur, Allah regarde chaque mu'min, mu'mina, de façon individuelle. Et Allah nous écoute personnellement, comme si qu'on était seul devant lui et qu'il nous écoutait exclusivement. Et là, ça fait appel également à une connaissance nécessaire sur les noms, les attributs d'Allah, car Allah est As-Sami'ul Basir et Allah est Al-Alim. Al-Alim qui a la connaissance de tout. Et Allah est As-Sami' qui entend tout exactement comme si qu'il n'y avait qu'une seule entité ou créature qui s'adressait à lui. Et Allah est capable d'écouter, d'entendre des milliards ou l'intégralité de sa création, l'invoquer en même temps dans des langues différentes. Et Allah nous voit tous individuellement, et Allah c'est alimum bidat al-sudur, c'est pertinemment ce qu'il y a de le cœur de chacune de ces créatures, même si il s'agit parfois de choses qu'on ne peut pas verbaliser, qu'on ne va pas demander ce soir de nos doigts. Allah sait ce qu'il y a au plus profond de nous. Allah connaît nos attentes, Allah connaît notre intention, Allah connaît nos chagrins, Allah connaît nos peine, Allah connaît nos épreuves parce que c'est lui qui a envoyé ces épreuves. Donc, quand je vais me mettre debout devant lui ce soir et que j'ai des problèmes dans ma vie de santé, problèmes familiales, problèmes d'ordre financier, quelle que soit la nature des problèmes, je dois être convaincu que je m'oriente vers celui qui a créé les situations et qui attend que je retourne vers lui pour lui demander son aide. Donc, m'adresser à Allah avec espoir. Et c'est uniquement auprès de lui ce soir que j'ai le droit de me plaindre. Comme Youssouf alayhi salam avait dit, « Innama ashku bathi wa huzni ilallah » alors qu'il avait perdu Ya'qub. Le prophète Ya'qub alayhi salam qui le disait, alors qu'il avait perdu le prophète Youssouf alayhi salam et qu'il a perdu ensuite son enfant Benyamin, il ne s'est plaint qu'à son Seigneur, parce que les plaintes et la tristesse, on ne les expose qu'à Allah Azza wa Jal. Parce que se plaindre et exposer sa tristesse et son désarroi à une créature, cela n'apporte pas grand-chose, si ce n'est un petit confort psychologique qui ne nous délivrera pas de la situation actuelle. Mais par contre, garder l'exclusivité de ces plaintes et de cette exposition de notre situation à notre Seigneur, c'est une preuve de iman, de conviction. On sait qu'Allah nous voit et nous entend. Donc ce soir, tout se passe ce soir. Nos attentes, nos demandes, mais également nos craintes, nos tristesses, nos chagrins, on se livre à notre Seigneur. Et bien sûr, il y a beaucoup de liens qui circulent en ce moment, des savants, des collègues qui ont fait un travail monumental en compilant des adhiyas, des doigts, des invocations, et certains ont même mis la traduction en français. Il y a un travail qui est fait qui ont été faits à la base par nos anciens, nos ulamas, nos professeurs. Allah les récompense. Et ce travail a été parachevé par les jeunes, par nos collègues qui ont traduit, qui ont expliqué. Ils font un travail énorme, qu'Allah les agrée et les récompense. Mais au-delà de ces lectures de Kutayyib, de Kitab, n'oublions pas un dialogue intime avec notre Seigneur, une conversation avec notre Rabb, notre Seigneur. C'est ça qui va faire vivre notre nuit du destin. C'est ça qui va donner ce sera le nectar et la beauté et qui va donner de l'intensité à nos doigts. Avant de formuler le doigt, si on a parlé, on s'est livré à notre Seigneur, vous allez voir, mes chers frères et sœurs, lorsque les formulations vont être faites, on va le faire avec une conviction qui sera, subhanallah, magnifique. Et j'espère qu'on va atteindre ce soir un niveau de persuasion, de conviction, d'engagement, de présence de cœur qu'on n'a jamais atteint dans toutes nos invocations, qu'Allah nous accepte pour le faire, parce que c'est ça la beauté et la puissance des doigts. Et n'oublions jamais que notre prophète alayhi salat wa salam nous a rapporté ce verset qu'Allah lui a révélé, verset qu'on a eu l'occasion de commenter il y a quelques jours. Allah est proche de nous, et Allah est tellement proche, plus proche que notre veine jugulaire. Allah sait quand on s'adresse à lui. Ne nous privons pas de cette audience qu'Allah nous accordera ce soir et durant les 10 nuits ou les 9 nuits de la dernière décade. Bon, on est parti un peu loin, on a zappé un peu le sujet, mais on revient vers le mawdou'. Quelles étaient les habitudes de notre prophète alayhi salat wa salam durant la dernière décade de ce mois béni? Notre prophète alayhi salat wa salam, premièrement, on va être un peu plus synthétique, premièrement, ihya ul layli bil ibada. Ça, ces différents points viennent d'un ouvrage, ça a été écrit par Ibn Rajab al-Hanbali, La Ta'if ul Ma'arif, un excellent livre, malheureusement pas traduit encore en français, mais s'il y en a qui ont une approche de la langue arabe, je conseille cet ouvrage où ce grand cheikh Ibn Rajab al-Hanbali a détaillé ces points et a numéré les habitudes du prophète alayhi salat wa salam durant la dernière décade. Ihya ul layli bil ibada. Notre prophète alayhi salat wa salam passait la nuit en ibada. Hadith de Aisha radiyallahu anha qu'on avait cité hier, kana alayhi salat wa salam idha dakhala al-ashr. Le prophète salam, lorsqu'il entrait dans la dernière décade, passait la nuit en ibada. Hadith de Imam Muslim. Un autre hadith rapporté par Imam Muslim, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, il me semble que c'est un hadith d'Aïcha radiallahu anha également, يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. Hadith de Muslim qu'on avait cité hier, c'est celui-là, il faisait des efforts, tellement d'efforts durant cette dernière décade, des efforts supérieurs aux 20 premières nuits et aux autres nuits de toute l'année. Donc une réelle transition entre la dernière décade et les 20 premiers jours du mois de Ramadan, et ça doit se ressentir dans notre organisation de nos nuits. Autre hadith, ça a été rapporté par Imam Ahmad de son Musnad, qui nous permet de comprendre quelle était l'organisation du prophète salam toute l'année et durant cette décade. Kana alayhi salat wa salam, le prophète avait l'habitude de durant les 20 premières nuits de Ramadan de mélanger, de partager sa nuit bi salatin wa naumin, entre les prières et le sommeil. Mais lorsque c'était la dernière décade, et là le prophète alayhi salat wa salam pliait, on pourrait dire, la natte sur laquelle il dormait, et il consacrait sa nuit en ibada. Parce que nous savons que le prophète alayhi salat wa salam, en dehors de cette dernière décade, ne passait pas la nuit en entier dans le ibada. Il avait même interdit aux sahaba de ne pas dormir toute une nuit. Il y avait un jour, on sort légèrement du sujet, 3 compagnons qui étaient venus voir le prophète alayhi salat wa salam pour lui exposer leurs bonnes intentions et leur envie de se rapprocher d'Allah par des efforts magnifiques. Et notre prophète allait les rencontrer, mais il avait entendu leur conversation de loin. Et il avait entendu, on citera juste le shahid, ce qui nous intéresse, il y en a un qui avait dit que moi, le soir, je ne dors plus. Je ne dors jamais le soir, car toutes mes nuits, je les passe en ibada. Et le prophète alayhi salat wa salam, il y en a un autre qui a dit que je ne me marie pas pour passer toute ma vie dans l'adoration d'Allah. Et un autre qui a dit je ne mange pas. Je ne mange pas toute l'année, car je jeûne toute l'année. Bien sûr, à l'exception des jours où il est interdit de jeûner. Le prophète alayhi salat wa salam était mécontent. Il était mécontent. Et il a dit que je suis le plus pieux parmi vous. Lui, il a le droit de le dire. Je suis le plus pieux parmi vous. Pourtant, je suis un homme marié. Pourtant, il y a des jours où je jeûne, mais il y a des jours où je ne jeûne pas. Et donc, je mange avec ma famille. Et je dors le soir, mais je me réveille pour la prière de la nuit et je ne passe pas toute la nuit en ibada. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَمِنِي. Celui qui s'éloigne de ma sunna ne fait pas partie de moi. C'est parce que ce juste milieu, l'équilibre entre notre vie d'être humain, notre engagement auprès de notre épouse, de nos enfants, de notre famille, de notre communauté, l'équilibre entre cela et l'engagement spirituel auprès d'Allah, ben cet équilibre-là est essentiel. Il n'y a pas d'exagération, d'extrême, de relou En islam, au contraire, le relou est condamnable, donc partager son temps, à l'exception de la dernière décade du mois de Ramadan. C'est exceptionnel durant toute l'année. C'est là que le prophète a passé l'intégralité de sa nuit en ibadah. Maintenant, on l'avait un petit peu effleuré en introduction. Qu'en est-il d'une personne qui travaille le lendemain? Aujourd'hui, c'est jeudi, donc demain, c'est vendredi. Et imaginez que je sois médecin ou je sois un infirmier, d'accord? Ou quel que soit le métier, électricien, plombier ou vendeur, peu importe la profession, et c'est une profession qui ne peut pas s'organiser par télétravail ou dont le timing ne peut pas être décalé. D'accord? Et que les gens ont besoin de moi. On va garder l'exemple du médecin ou de l'infirmier parce qu'on est dans une période, subhanallah, où ils sont extrêmement sollicités, qu'Allah leur accorde son aide et guide le cœur de chacun par les efforts qu'ils vont faire pour apporter de l'aide aux créatures d'Allah. Allahumma amin. Et donc, les gens ont besoin de moi. Je dois prendre mon poste demain à 8h à 9h. Et si je passe la nuit en ibadah, je ne vais pas être performant demain matin. Dans ce cas, je partage ma nuit entre ibadah et sommeil avec cette intention ferme que si j'avais la possibilité, j'aurais passé la nuit en ibadah. Et quand ce sera mon week-end, vendredi soir par exemple, si je ne travaille pas le samedi ou samedi soir, ben, les nuits, les veilles de jours où je ne travaille pas, là je vais passer l'intégralité de la nuit en ibadah. On le fait avec espoir qu'Allah m'accorde la nuit en ibadah parce que mon intention première et initiale aurait été de passer la nuit en ibadah. Maintenant, si je peux décaler mes horaires de travail, si c'est une profession où on a la possibilité de travailler par exemple, de s'organiser, travailler de 14h à 17h ou à 18h par exemple, ben là on peut se permettre de passer la nuit en ibadah et de rattraper un peu de sommeil le lendemain, après le Fajr. Voilà, tulqou biyadikoum ila tahlouka. Il ne faut pas se jeter dans, ne faut pas courir à sa propre perte non plus, pas faire des choses qui risquent de nous causer préjudice. Je prends l'exemple imaginez une personne qui travaille sur des machines, hein, des machines en usine, dans l'usine ou des poids lourds, hein, quelqu'un qui est chauffeur, livreur. Si la personne passe sa nuit en ibadah, hein, depuis 22 heures, quand il a fini le salat al-tarawih, il enchaîne avec le qiyam al-layl, les a'mal, et le matin, il prend son camion à 7 heures, et voilà, c'est dangereux. Il peut faire un accident, il va manquer de sommeil. Donc là, il ne faut surtout pas commettre ce genre d'erreur. À nous d'organiser au mieux, et Allah connaît notre intention, mais faisons en sorte de faire le maximum d'efforts possible. Premier point. Deuxièmement, le prophète alayhi salat wa salam kana yuqidh ahlahu. Deuxième titre énoncé par Ibn Rajab. Le prophète alayhi salat wa salam réveillait sa famille. On a hadith de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yaqul kana alayhi salat wa salam yuqidh ahlahu fi al-ashr al-awakhir min Ramadan wa kull saghir wa kabir yutiq as-salat. Même les enfants. Quand on parle de sa famille, c'était sa femme, ses épouses. Et même les enfants qui avaient la possibilité de se lever. D'accord? Bien sûr, un enfant de 2 ans, 3 ans, ça, c'est pas envisageable. Mais si on a un enfant qui prie déjà, il a 7 ans, 8 ans, 9 ans, ben, lui donner l'importance de la dernière décade et lui donner l'importance des prières, ne serait-ce qu'un instant. Ne serait-ce que le réveiller à 3 heures du matin, déjà s'il jeûne. Le lendemain, au cas où c'est le jeûne et qu'on a l'habitude de le réveiller par exemple à 4h30, on peut le réveiller à 4h, un peu plus tôt, dire voilà, c'est la dernière des quatre, tu te lèves un peu plus tôt, tu vas faire deux unités de prière ou quatre et faire un peu de doua et demander pardon à Allah. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Ce qui est important en termes de tarbiya, d'éducation, c'est que nos enfants grandissent avec ces repères spirituels. Parce que ce sont là les bons repères spirituels que nous allons les transmettre. Des fois, on fait des fausses routes dans la religion. On donne à nos enfants l'importance d'événements qui ne nécessitent pas une implication personnelle. Je donnerai l'exemple sans entrer dans les débats, le 27e Rajab. La nuit de l'Isra ou le Mi'raj, à la Réunion, on donne une certaine importance, alors que c'est un événement qui a eu lieu une fois, qui ne s'est pas répété et dont personne n'a jamais, n'a jamais passé de nuit en ibada, le 27e. Mais bon, nos enfants ont fini, on a tous grandi avec cette importance, c'est-à-dire qu'on a eu des repères quand nos parents nous amenaient à la masjid pour écouter un programme sur cette thématique, le 27e Rajab, ce qui fait que toute notre vie, quand arrive le 27e Rajab, on est focalisé sur cet événement. Il faut leur donner les vraies bases et les vrais repères spirituels, la dernière décade, qu'ils intègrent durant toute leur enfance et leur jeunesse, que c'est un événement qu'on ne doit sous aucun prétexte rater. Donc, réveiller nos enfants, et ça c'est ce qu'on appelle en tarbiyah, en éducation islamique, les ulama disent que ça c'est « at-tarbiyah bil-qudwa », éduquer l'enfant par le bon exemple, par l'implication personnelle dans cette bonne œuvre et pas uniquement par opposition au ce qu'on appelle at-tarbiyah bil-qawli. On peut éduquer en expliquant, en parlant, en donnant un conseil, mais on peut également et on doit éduquer en fusionnant la parole, le bon conseil avec le modèle, avec l'exemple, al-amalu bihi, en mettant en pratique nous-mêmes et qu'ils nous voient le faire. Parce que, mes chers frères et sœurs, ikhwan et akhawat et fillah, vous savez, nos enfants, on parle des petits, ben, nous sommes pour eux les modèles et nous représentons pour eux les êtres les plus chers sur qui ils comptent le plus. Si nos enfants voient que les personnes qu'ils aiment le plus au monde donnent autant d'importance à un événement, assurément, ils vont donner de l'importance à cet événement. Parce que les enfants, si nos enfants nous aiment, ils doivent nous aimer. On doit faire ce qu'il faut aussi pour qu'ils nous aiment. Les enfants vont automatiquement nous suivre dans nos décisions et dans les choses qui nous sont chères, à partir du moment, bien sûr, qu'il y a une relation de confiance et il y a des échanges, il y a mashwara, il y a un dialogue qui est fusionnel. Il y a une relation fusionnelle entre nous et nos enfants. C'est un autre débat. Mais si on a réuni les conditions d'éducation bienveillante et que nos enfants nous aiment et qu'on les respecte et qu'ils nous respectent et qu'il y a un partage il y a des échanges entre nous, si nos enfants nous voient donner l'importance, je le répète, à cette dernière décade, toute leur vie, ils le feront et ce sera un objectif ma'ajib, un magnifique objectif atteint dans l'éducation. On aura transmis. Notre rôle, c'est la transmission des valeurs, de ces valeurs. Ya ayyuhar rasul balligh. Le prophète a reçu l'ordre de transmettre. Il a transmis la révélation. Il a transmis le message de l'islam. Il nous l'a transmis à nous de le transmettre en priorité. Avant d'aller faire da'wah à droite, à gauche, dans différents endroits, d'accord? La priorité, c'est de transmettre à nos propres enfants, de former les futures générations de mu'min et de mu'mina, khashi'in, qanitin, sadiqin. C'est ça notre objectif de parents et c'est à ce propos que nous serons questionnés yawm al-qiyamah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyati. Vous êtes tous des bergers et vous serez tous interrogés à propos de votre troupeau. C'est-à-dire que les questions de notre Seigneur, le jour de qiyamah, nous concernant nous parents, porteront sur nos enfants, femmes et enfants. En premier, donc il nous appartient, je le répète, de leur inculquer l'importance de cette dernière décade, de leur parler, expliquer, pas juste leur dire de faire. Parce que le tarbiyah bil qawl, c'est juste, il y a également de le tarbiyah bil qawl, l'éducation par la parole. Il y a l'approche plus sage et il y a l'approche traditionnelle et un peu plus brute. C'est ce parent qui dit à ses enfants, allez, lève-toi, va faire ton namaz et fais telle chose, en criant. Vous savez, il y a des parents qui n'ont aucune autre méthode pédagogique que la pression qu'ils mettent sur les enfants, les ordres qui sont donnés, le ton, ils vont élever la voix, ils vont crier. Il y a des parents qui ne savent que ça, ils crient. Pour toute chose, ils doivent crier. S'ils ne crient pas, les enfants n'obéissent pas. Mais c'est une éducation qui est totalement erronée. Et ça va à l'encontre de l'éducation. Mais nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est de communiquer, d'expliquer à ces enfants tout ce que nous, on est en train d'essayer de partager à travers cet enregistrement, afin de les convaincre de l'importance de cette nuit. Et après cette étape, nous-mêmes on le fait, on les réveille avec nous, afin que, inshallah, ils vont l'accomplir, ils vont obtenir les récompenses, et ils vont garder ça comme repère durant toute leur vie. Il y a une mas'ala également, une question qui se pose concernant une femme qui n'est pas en état de tahara, qui n'est pas en état de pureté. Elle est haïda, elle a ses périodes, ou une femme qui vient d'accoucher. Donc, dans ces cas-là, la question a été posée à Aboul Qasim al-Balkhi. Aboul Qasim al-Balkhi fait partie des tabi'in qui ont rapporté des narrations de Anas ibn Malik, radiallahu anhu. Donc, selon Aboul Qasim al-Balkhi, ou alors plutôt, excusez-moi, Aboul Qasim al-Balkhi, oui, avait questionné Abdouhak à propos de la femme. Et c'est Abdouhak qui a rapporté de Anas ibn Malik, je me reprends. Qu'en est-il de la femme donc dans cette situation? Il a répondu que elle doit se réveiller et être présent comme tout le monde, d'accord? Sauf qu'elle ne va pas prier bien sûr, mais elle fait ses ablutions idéalement et elle se met sur son tapis de prière comme tout le monde, d'accord? Et il y a juste la salat qu'elle ne fera pas. Et la lecture du Coran, bien sûr, mais elle va se concentrer, se focaliser sur les adhkar et l'istighfar et les invocations. D'accord? Et nous revenons vers un hadith de base qui rejoint les hadiths de l'intention. N'oublions pas que le prophète alayhi salat wa salam avait donné l'exemple de personnes qui veulent faire de bonnes œuvres ou qui l'ont toujours fait et qui trouvent un obstacle qui ne dépend pas de leur volonté. Le cas de la personne qui est malade, la personne qui est en voyage ou la personne qui prend de l'âge et qui, durant des périodes ordinaires ou durant leur jeunesse, avait l'habitude de faire de bonnes œuvres. Le prophète Hassan dit qu'Allah demande aux anges d'inscrire pour eux les mêmes bonnes actions qu'ils avaient l'habitude d'accomplir muqiman sahihan lorsqu'ils étaient chez eux, c'est-à-dire pas en voyage et en bonne santé. Donc si c'est une dame qui tous les ans a l'habitude le soir, mashallah, de faire 12 unités de prière et mashallah de lire de longues unités de prière, de lire un demi-djouz, un demi-sipara dans chaque rakat, mashallah, et qu'elle ne peut pas le faire, et qu'elle la conviction qu'Allah est capable de lui accorder les mêmes récompenses qu'elle avait les fois où elle pouvait le faire, parce que son niyya est pure et sincère, et elle fait l'effort d'être présent durant ces nuits. Troisième point, on va aller un peu plus vite. I'tizal ou nisal, c'est des points un peu plus faciles à expliquer, à intégrer. Le prophète alayhi salat wa salam s'éloigner entre guillemets de son épouse, c'est-à-dire ne pas avoir de rapport avec sa femme, pas d'intimité. Le but, c'est vraiment de consacrer la nuit au ibad. Maintenant, il faut pas non plus exagérer en disant que si un mari s'est rapproché de son épouse durant cette nuit, c'est pas haram, hein. Ce n'est pas un péché, il y a pas de kafara, ce n'est pas, d'accord? C'est interdit pour le mu'atakif, bien sûr, celui qui a un itikaf, mais autrement, il n'y a pas d'interdiction, mais il est beaucoup mieux de consacrer cette nuit pour les ibadah. Quatrièmement, ça c'est une action qui a été rapportée par Aïcha radiallahu anha, citée donc par Ibn Rajab al-Hanbali. Le Prophète avait l'habitude de prendre un bain entre le Maghrib et Isha. Waghtasala bayna al-adhanayn. Al-adhanayn, c'est entre Maghrib et Isha. Le but, c'est al-nashat wal-quwa. De se sentir bien, c'est-à-dire de créer les conditions pour être bien et se présenter, c'est le cinquième et dernier point, se parer pour rencontrer Allah Rabbul Izzah. Et ça, c'est très important parce que ça va prouver que nous ne sommes pas en train d'accomplir un rituel sans compréhension, mais que vraiment, je réalise et que je vis dans mon cœur ce amal, cette action intérieure, amina amal al-qulub, le muraqabatullah, la conviction que quand je dis Allahu Akbar, je suis devant je suis sur mon sajjada, mon sallah, Allah me voit et m'entend. Et j'ai conviction qu'Allah me voit et donc se parer de ses plus beaux habits. C'était l'habitude de Anas bin Malik radiallahu anhu lorsque c'était la nuit où on pensait à la nuit du destin. Il avait l'habitude de prendre un bain et de se parfumer et de mettre ses plus beaux habits. C'était l'habitude également de An-Nakhai. Là, on parle des piliers, des grands, grands, grands savants des plus belles générations. Et c'était l'avis également de Imam al-Tabari et de Tamim al-Dari, radiallahu anhu et rahimahumullah. Et d'une façon générale, les savants conseillent de garder des vêtements spécifiques pour les nuits de prière. Je donne un exemple, c'est très terre à terre, mais ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, c'est, bon, on se réveille, au cas où on a dormi, avec notre pyjama, D'accord? Quel que soit le nom des vêtements, on va faire la salat. Parce que vous savez que quand on dort, parfois il peut y avoir des petits accidents ou autre chose, et en termes de pureté des vêtements, ça peut être douteux. Et c'est une façon pour nous de montrer qu'on donne ihtimam, qu'on donne de l'importance, et tout comme quand on se présente, décalage, il y a décalage dans l'exemple, si on présente devant une personne, une personnalité de ce monde, un président, un ministre ou autre chose, ben voilà, on ne va pas y aller en pyjama ou en tenue, ou voilà, quoi, excusez-moi pour les messieurs, les fameux longis qui sont. Voilà, mais on va plutôt mettre les plus beaux vêtements. Ben, on montre à notre Seigneur que on est là, on est présent et qu'on donne de l'importance à cette audience qu'il nous accorde et que on est tellement heureux de se présenter à lui et se parfumer, c'est très important également pour qu'on ressente nous-mêmes et pour qu'on réalise que on est en train de s'impliquer physiquement. En plus de la bonne intention et l'implication spirituelle qu'Allah Rabbul Izzah nous accepte tous ce soir et durant toutes les nuits de cette dernière décade pour faire le maximum de bonnes œuvres et qu'Allah ouvre nos cœurs et nos poitrines pour que ces actions y trouvent leur naissance de nos cœurs et qu'on arrive à fusionner entre huzurul qalbi, présence de cœur, et al-qiyamu bil ibada, et l'accomplissement des bonnes œuvres et qu'Allah nous accepte. Rabbana taqabbal minna, innaka anta as-sami'ul 'alim. Subhan rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin. Jazakumullahu khairan.